affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Pour qualifier notre époque, certains de nos contemporains la désignent du nom, parfois un peu pompeux, de civilisation de la communication. Soit. Il est vrai que jamais les études dédiées à celle-ci n'ont été aussi présentes dans notre vie quotidienne. Il est certainement vrai également que la communication, par sa capacité à influencer, est un instrument de pouvoir prisé de nos jours. Fort bien. Mais si singulier. N'est-ce pas oublier que notre civilisation, justement, a été également façonnée par une religion qualifiée de religion du livre, et que ce livre proclamait qu'au commencement était le Verbe. Voilà déjà de quoi relativiser la singularité de notre époque en termes de communication. D'autant que d'autres siècles, par le passé, ont également accordé une grande importance à la nécessité d'échanger, de communiquer. Et ce, avant même l'invention de l'imprimerie à laquelle on pense spontanément. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Nous avons en effet la chance de recevoir dans notre studio Nicole Berriou. Madame, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes bien sûr membre de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Vous avez consacré votre carrière à l'étude de sujets d'histoire religieuse et de communication. Vous êtes médiéviste. Votre thèse portait sur l'avènement des maîtres de la parole consacrés aux prédicateurs du XIIIe siècle. Et tout récemment, vous avez publié une somme d'articles savants sous le titre dont le recueil est titré « Religion et communication, un autre regard sur la prédication au Moyen-Âge ». Et c'est bien le sujet, car c'est bien un autre regard que vous allez nous aider à porter sur cette période pendant l'émission et à travers ce livre qu'il faut lire. Ma première question est une question de contexte, car je l'ai dit, vos études portent principalement sur le XIIIe siècle. Pourquoi le XIIIe siècle? Que se passe-t-il à ce moment-là? Qu'est-ce qui justifie cet engouement et ce renouveau de la prédication chez les contemporains de cette époque?
Oui, la question est tout à fait pertinente parce que, en fait, quand on dit religion et communication, en ce qui me concerne, mon domaine historique a été la religion chrétienne. C'est déjà un premier point important. Et vous parliez d'un renouveau, et en effet, c'est le mot qu'il faut employer parce que nous savons tous que cette religion est avant tout fondée sur la communication d'un message. C'est ainsi que se fait l'envoi des apôtres du vivant même du Christ. Il envoie ses apôtres en mission, aller prêcher et baptiser. Donc la première démarche est bien celle d'un enseignement à travers la prédication. Ça a donc existé, ça s'est déployé au fil des siècles. Alors pourquoi le XIIIe siècle? Eh bien parce que, comme dans toute histoire, il y a des allers-retours, c'est-à-dire qu'il y a des moments où forme de communication à travers des prises de parole dans la société prend plus de place qu'à d'autres moments. Et ce qui se passe au cours, je dirais, de la période plus large qui va du XIe au XIIIe siècle, si on se met du côté de l'Église latine, parce que c'est une autre limite aussi, l'Orient a sa propre vision des formes de communication, donc dans le domaine de l'Église latine, ce qui est frappant, c'est tout l'effort de structuration de l'Église à ce moment-là, qui démarre d'ailleurs au sommet avec la papauté et qui petit à petit la structure dans une distinction claire entre les laïcs et les clercs, et à ce moment-là, donc, cherche en même temps à contrôler l'ensemble du système. Mais en même temps, il y a aussi dans la même période une véritable soif qu'on sent dans la société de mieux connaître ce qu'est le message chrétien et ce qu'a été la vie des premiers chrétiens, ce qu'on a appelé la vie apostolique. Et dans cette vie apostolique, il y a la prédication. Et on voit des laïcs qui cherchent à en savoir plus, à lire la Bible, qui est dans une langue qu'ils ne pratiquent pas ordinairement, à entendre des commentaires de l'Écriture, et également à parler eux-mêmes, à prêcher eux-mêmes. Et dans ce contexte, petit à petit, émerge la conscience qu'il faut aussi que l'Église établie, dans l'Église des clercs, prenne sa part dans toute cette affaire. Et donc, c'est ce mélange entre les deux courants qui m'a intéressée et qui émerge en quelque sorte au cours du XIIIe siècle, même si dès le XIIe siècle, on en a déjà tous les signes avant-coureurs extrêmement importants. Mais il faut bien s'arrêter un petit peu, donc j'ai plutôt pris le XIIIe.
Alors il y a une première chose qui surprend dans l'importance prise par la prédication dans cette société, c'est que vu d'aujourd'hui, avec toutes les limites de nos connaissances, en tout cas de mes connaissances, on s'imagine que la société médiévale est une société déjà intégralement chrétienne, et que autant on comprend que Jésus dise à ses apôtres « Allez prêcher, annoncer la bonne nouvelle aux peuples qui ne sont pas encore chrétiens », comment se manifeste cette utilité de prêcher à des gens qui sont déjà convertis et dont, semble-t-il, la pratique est quand même déjà bien établie même.
Oui, c'est exact. Et je crois personnellement d'ailleurs que l'historien doit y penser. C'est-à-dire qu'il doit se dire que tout ne naît pas avec la prédication. C'est pas parce qu'on va trouver dans les sermons des développements sur la doctrine, sur la morale, etc., que les gens attendaient ça pour vivre. Ils avaient leur propre façon de concevoir la religion, leur propre pratique, quelquefois même des croyances qui étaient plus ou moins contrôlées, vérifiées. Mais ce qui est intéressant, c'est justement qu'à partir d'une certaine période de l'histoire, toujours dans le contexte évoqué tout à l'heure, il y a un mouvement qui se caractérise par une qualification des choses. Il faut non pas simplement croire les choses qui circulent dans la société qui est le soubassement religieux, mais il faut bien croire. Il faut donc faire le partage entre les bonnes croyances et les mauvaises croyances. Et de la même façon, il faut bien agir. Il faut faire en sorte que le comportement soit véritablement conforme à ce que l'on souhaite chez un bon chrétien, entre guillemets. Donc, ce souci de qualité fait qu'il y a à la fois une démarche critique en dénonçant des mauvais comportements ou des croyances fausses. Et je rappellerai quand même que le XIIIe siècle est aussi le moment où cette même Église établie, Église des clercs, combat de manière de plus en plus virulente les mauvaises croyances, qu'elles soient hérétiques ou superstitieuses. Et il y a là tout un courant. On connaît bien la naissance de l'Inquisition qui est dans les années 1230, et auparavant il y avait déjà des enquêtes épiscopales, etc. Donc il y a une volonté là qui est tout à fait manifeste dans ce sens, et en même temps on voit aussi très bien qu'il y a cet éveil religieux qui est tout à fait clair dans notre documentation entre le XIIe et le XIIIe siècle, où on cherche à vivre une vie parfaite de la part des laïcs eux-mêmes, et donc ils prennent des initiatives, notamment par la charité. Par exemple, ils ont de l'argent, ils vont faire beaucoup de choses pour développer cette charité. Et dans ce contexte-là, eh bien, les modalités se mettent en place petit à petit pour développer un message religieux qui soit d'ailleurs de communication. C'est-à-dire que les prédicateurs ne se contentent pas de dire ce qu'il faut faire, c'est pas de la norme simplement, mais ils regardent ce que font les laïcs et ils s'inscrivent aussi dans cette manière de vivre la religion, pour apporter leur pierre en quelque sorte. Et je crois qu'il faut vraiment comprendre cela. Le travail sur la communication suppose que l'on pense aux gens à qui s'adresse la communication. Et je crois que les prédicateurs déjà, tels que je les vois agir au XIIIe siècle, ont parfaitement conscience de cela. Ils ne vont pas imposer quelque chose, ils vont s'inspirer de la vieille tradition rhétorique latine, Cicéron et les autres, où le discours doit émouvoir et plaire, et pas simplement donner une doctrine et imposer une doctrine, surtout pas même, je dirais. C'est avant tout obtenir un consentement et une adhésion qui va donner la possibilité de réaliser les choses comme on les a comprises.
C'est-à-dire qu'au-delà de pratiques religieuses qu'on pourrait qualifier de façade ou un petit peu formalisées, sociales en quelque sorte, ou institutionnelles, eux traduisent une aspiration à une authentique conversion, c'est ça ?
Exactement. Et le mot de conversion est d'ailleurs, je crois, tout à fait essentiel, parce que si l'on regarde le message des évangiles, on s'aperçoit qu'il est au cœur de tout l'envoi en mission, hein, qui est donc aller prêcher naturellement naturellement, mais qui est aussi de dire, comme le fait Jean-Baptiste au début de l'évangile de Matthieu, il s'agit de se convertir, convertissez-vous et faites pénitence. Et de la même manière, Saint-Pierre dira, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Et nous trouvons dans cette prédication du XIIIe siècle un très fort évangélisme, un retour aux sources qui est un retour à l'enseignement des éléments essentiels de l'évangile dans lesquels on va trouver la conversion, c'est-à-dire la conversion intérieure, non pas l'adhésion à la religion, mais une conversion intérieure, une vie plus authentique et du coup une manière de vivre à travers des actes pénitentiels ou une spiritualité pénitentielle et qui nous ramène aussi à l'intériorité. Et tout ça, il ne l'invente pas complètement, c'est déjà vécu dans certaines catégories sociales, mais c'est le climat dans lequel va baigner au fond cet enseignement et cette communication.
Alors en lisant le livre, j'avais le sentiment, mais peut-être que je m'égare ou que le cas existe, mais n'est pas absolu, que la prédication elle-même est un exercice spirituel, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de valeur seulement en raison du fait qu'elle s'adresse à d'autres, mais elle est un devoir qu'on s'impose, une forme de don et de soi et d'ascèse en elle-même pour ceux qui la pratiquent.
Oui, c'est vrai. Je crois que elle implique une ascèse, c'est vrai, et quelquefois même parce que des théories un peu bizarres circulent quelquefois, où on s'interroge par exemple pour savoir si un prédicateur bien en chair peut prêcher avec efficacité sur le jeûne, par exemple. Bon, ça c'est un peu le cas limite.
On peut pas disqualifier saint Thomas, quand
même. Non, surtout pas, même si on a moins de sermons de saint Thomas que ce qu'on croyait autrefois, puisqu'autrefois on disait qu'on avait conservé à peu près 500 texte et puis que les travaux d'érudition qui ont été menés ont fait maigrir, non pas saint Thomas, mais en tout cas la quantité des sermons connus de lui, à simplement une vingtaine. Donc voilà, alors ça c'est un autre problème. Mais je dirais que tout humour mis à part, encore que l'humour fasse partie très largement de la communication des sermons, je crois en effet qu'il faut considérer qu'il y a dans les démarches des prédicateurs une interrogation sur la capacité qu'ils ont à travers leur personne et l'image qu'ils donnent de même d'être également convaincant, même si nous ne le savons plus parce que nous n'avons pas de film, nous n'avons pas d'enregistrement haute fidélité, tout ça, ça n'existe pas, mais quand même on voit que c'est une préoccupation et ils savent très bien que leur crédibilité est aussi liée à la manière dont ils se présentent. Mais je pense quand même surtout que s'il y a cette ascèse, s'il y a aussi ce souci de l'image que l'on donne de soi, la chose peut-être la plus importante, c'est que le devoir de prédication a émergé dans la société à la suite d'un long chemin qui commence par un retour à la Bible, tout simplement. C'est-à-dire que dans les écoles cathédrales, où il était d'usage d'enseigner la Bible aux clercs qui seraient, au fond, en position la plus élevée ensuite dans la société du fait de leur culture plus affinée, eh bien, dans ces écoles cathédrales, en particulier d'ailleurs en France, je dirais même la première des écoles, c'est la vieille école carolingienne de Laon. On se met à étudier la Bible à nouveau, à frais nouveaux, de l'intégralité de la Bible, en la commentant, mais en la commentant d'une manière très actuelle et en essayant d'ajuster ce commentaire aux besoins, aux insuffisances de la société du temps. Donc, il y a un premier effort là qui est vraiment de comprendre en l'actualisant le message religieux. Et à partir de là, va se développer l'idée que ceux qui commentent ainsi la Bible, ceux qui lisent la Bible pour l'étudier, pour mieux la comprendre, ne vont pas au bout de leur engagement s'ils s'arrêtent là et si au fond ils se font plaisir en comprenant mieux ce qu'il y a dans la Bible, mais que tout ceci n'a de sens que si on fait partager. C'est aussi un des sens de la communication. Si on fait partager à d'autres ce qu'on a compris. Et donc, l'orientation et le but de tout ce travail d'exégèse, c'est précisément de partager avec des gens qui n'ont pas accès immédiatement au texte de l'Écriture, qui sont très rarement en langue vernaculaire. La plupart des textes circulent dans le monde latin en latin. Et donc, à travers une adaptation qui sera celle du langage, en employant la langue des gens à qui ils parlent, ça peut être les clercs quand ils parlent à des clercs, mais généralement, pour le peuple en tout cas, c'est la langue vernaculaire qui domine. Il faut faire partager, il faut trouver les mots pour faire partager cette recherche. Donc, vous voyez, c'est un courant qui se développe et dont l'un des sommets se situe à Paris, tout, précisément à Paris, dans l'école cathédrale de Paris, où un maître en théologie très fameux développe cette même idée qu'il faut étudier la Bible pour la prêcher. Il s'agit de Pierre Le Chantre, qui est contemporain de quelqu'un dont on a beaucoup parlé ces temps-ci, parce que c'est celui qui a décidé de la construction de la nouvelle cathédrale de Paris, et donc contemporain de Maurice de Sully, l'évêque de Paris, qui lui-même était grand prédicateur. Et on voit bien qu'il y a là, vous voyez, tout un courant qui se met en place, mais qui ne pourra atteindre sa pleine ampleur que lorsque des gens se consacreront à cette tâche, parce que les clercs font beaucoup de choses, ils donnent les sacrements, etc. Tandis que l'autre chose nouvelle qui apparaît au XIIIe, c'est qu'il faut qu'il y ait des hommes qui se consacrent à cette activité de prédication. Et ce seront les frères de Saint-Dominique et les frères de Saint-François qui arrivent à ce moment-là au XIIIe.
C'est un point important, c'est le partage entre les clercs et la laïque. Il semble qu'il y ait eu de nombreux allers-retours entre la possibilité offerte aux laïcs d'être des prêcheurs, des prédicateurs reconnus, et d'autres où cela aurait été retiré pour en faire l'apanage exclusif des clercs. Est-ce que ce sont des considérations purement pratiques qui guident ces décisions, ou quels sont les éléments qui sont pris en compte?
Ce qu'on peut dire, c'est que, par exemple, dans le XIIe siècle, on voit des laïcs qui choisissent de vivre une vie retirée au désert. Ce sont des ermites. Parmi eux, il peut y avoir aussi des clercs, mais enfin, il y a beaucoup de laïcs qui rentrent dans cette catégorie des ermites et qui se mettent à prêcher. Et à partir d'un certain moment, parmi ceux qui sont très connus, il y a par exemple Robert d'Arbrissel, qui a fondé Fontevraud et qui auparavant a exercé une activité très très importante de prédicateur, et je dirais même prédicateur itinérant. Mais à un certain moment, on voit que précisément cette église des clercs qui est en train de se construire et qui veut contrôler l'ensemble de la société à partir du sommet, à partir de la papauté elle-même, eh bien, se préoccupe de limiter les risques en quelque sorte. Et donc, face à la demande qui est celle de la société et qui se traduit par des prises de parole des laïcs, de femmes également, la fameuse Hildegarde de Bingen, qui était une abbesse, a prêché. Elle a prêché en dehors de l'église, de son abbaye, et avec la bénédiction de Saint Bernard. Donc les choses n'étaient pas claires à ce moment-là, ou plus exactement, elles étaient souples.
Mais c'est une époque de cristallisation, en fait.
Ah voilà, tout à fait. C'est une cristallisation, et c'est une cristallisation qui se fait sous la forme d'exclusion. Et parmi les catégories qui vont être exclues le plus radicalement, il y a les femmes. Les femmes qui, comme le disait déjà Saint Paul, doivent se taire dans les églises, et on a un peu radicalisé la chose, et donc ces femmes, effectivement, on disait oui au début des temps de l'église, quand vraiment il n'y avait pas beaucoup d'apôtres, il fallait bien faire appel aux femmes, mais maintenant c'est plus le cas, et donc ça devient une prédication d'hommes, en effet, et sauf évidemment peut-être à l'intérieur de certaines communautés, mais en tout cas en public, les femmes ne doivent pas prêcher, et par ailleurs, même les hommes sont encouragés à des formes de prise de parole qui relèvent plutôt de la promotion de la pénitence, en excluant toute préoccupation doctrinale, d'explicitation doctrinale, qui là est vraiment le domaine des clercs maîtrisant la parole, c'est-à-dire maîtrisant en fait les textes de l'Écriture.
Alors face à ce mouvement qui prend la forme d'un bouillonnement, qui a bien, oui, à certains égards, vous dites à plusieurs reprises, une demande de la société, donc elle éclot de façon probablement un petit peu désordonnée. Comment procède l'Église au-delà de l'exclusion de telle ou telle catégorie pour normer le discours, ce qui doit être certainement une de ses grandes préoccupations? Quand on est une Église universelle, on a envie que le message soit le même partout. Donc, est-ce qu'il y a des recueils de prêches, de sermons? D'ailleurs, peut-être faut-il faire la distinction. J'aurais dû vous poser cette question au début, c'est cerner le sujet. Lorsqu'on pense prédication aujourd'hui, tout de suite on imagine l'homélie du dimanche, mais il s'agit bien d'autre chose. Donc débrouillons d'abord les différences entre le sermon, le prêche, et ensuite les recueils ou autres moyens qui sont utilisés pour normer cette parole.
Oui, on peut, je dirais même, d'une certaine façon, combiner les deux, parce que tout historien est tributaire de ses sources, en réalité. Et alors, ce qui se passe au XIIIe siècle, c'est qu'on voit se multiplier des recueils de documents, qu'on peut appeler des sermons, qui sont donc des textes écrits, construits, qui forment le plus souvent des modèles qu'on peut utiliser. On va aller travailler dans une bibliothèque, on va s'inspirer de cela, et puis d'autres livres aussi, qui sont des recueils d'histoires de vie de saint, des exemples, des anecdotes moralisées, des commentaires de la Bible dans certains cas. Donc tous ces outils de travail sont faits pour aider le prédicateur à fabriquer un sermon. Mais en réalité, la distinction entre sermon et prédication vient du fait que la prédication va au-delà de la simple existence d'un texte écrit qui va donner lieu à une prise de parole à l'oral. La prédication est en soi une activité qui met en relation un prédicateur et des auditeurs, et cette activité donc a pour objectif précisément de transmettre un message en espérant que le message va être reçu. Et toute la question est là de savoir comment se font les choses. Alors, autant nous avons beaucoup de textes de sermons qui sont des modèles, nous en avons aussi à partir du XIIIe siècle qui sont plus proches de la pratique de la prédication, parce que ce sont des notes prises au moment des sermons. Et là, c'est une richesse nouvelle qui justifie aussi qu'on travaille sur le XIIIe plus qu'avant. Mais ce que nous avons moins, en revanche, ce sont des récits, des chroniques, qui nous montrent comment les prédicateurs prêchent. On ne sait quasiment rien de la façon dont ils utilisent les mouvements du visage, les gestes de la main, les silences, etc. Or, nous savons à quel point, dans toute démarche de discours, ces choses-là sont importantes. Alors, on est un peu sur sa fin, naturellement, pas totalement, parce que on a aussi quand même, en particulier à propos de quelques individus, des descriptions sur la manière dont ils pouvaient prêcher et utiliser toutes les ressources rhétoriques.
Et donc, en l'occurrence, sur ceci, ce que l'on connaît, quel est le portrait que nous pouvons faire de leur art oratoire?
Alors, d'abord, je crois que ce qu'on voit, c'est que ils n'inventent pas tout. Je dirais même que il y a des gens qui les ont précédés dans la pratique de la communication sociale, ce sont les jongleurs. Les jongleurs ont un énorme succès dans la société de cette époque, et ce depuis plusieurs siècles, et pas simplement dans les milieux aristocratiques, dans les châteaux où ils contribuent à organiser des fêtes pour l'aristocratie, mais également dans les rues, dans les villes, et les villes sont un milieu en plein essor à l'époque qui nous concerne. Donc, l'art de la communication est une pratique concrète, je dirais, qui a été vraiment déployée par les jongleurs. Et par ailleurs, il y a des modèles savants, intellectuels, qui remontent à l'Antiquité latine. Je parlais tout à l'heure de la rhétorique de Cicéron. Et donc, ils vont combiner ces choses-là, ces prédicateurs, et de ce fait, on voit dans certains cas des prédicateurs qui, par exemple, vont être tellement gesticulés, tellement que on s'en rend compte parce que on le leur reproche, qu'on leur dit dans les arts de prêcher qu'il faut éviter l'excès, soit l'excès des paroles dévergondées, soit des gestes malvenus, etc., pour ne pas faire mépriser justement le message qu'ils sont en train de communiquer. Et par ailleurs, alors, on a aussi, à l'inverse, la description de certains prédicateurs qui réussissent parfaitement à faire passer le message, pas nécessairement avec des paroles, mais simplement avec des silences et des gestes. Le plus bel exemple étant celui de Saint François, qui se dit d'ailleurs le jongleur de Dieu. C'est pas pour rien, il a quand même cette image de lui-même, et qui, par exemple, pour prêcher la pénitence, n'hésite pas à prendre de la cendre. Un jour de début de carême, il prend de la cendre, il fait un grand cercle autour de lui pour sacraliser en quelque sorte le lieu dans lequel il se trouve. Il répand le reste de la cendre sur sa tête, il reste en silence et il s'en va. Et il a décrit la pénitence à travers cette gestuelle sans dire un mot. Donc, nous savons que ça existe.
C'est du mime.
C'est du mime, absolument. C'est du mime, et on peut imaginer que beaucoup de prédicateurs, en fait, utilisaient ces ressources-là sans que nous n'en ayons jamais rien conservé. Mais il reste, malgré tout, que pour eux, la parole, ça compte, et donc, à défaut d'avoir tous ces reportages sur les gestes. Nous avons des reportages à travers les notes d'auditeurs qui nous montrent quelquefois qu'il y a des dialogues entre le prédicateur et les auditeurs, mais ce que nous avons, c'est un peu de la saveur de la parole réelle qu'il communiquait aux laïcs à travers les notes d'auditeurs.
Alors, ce qui est très surprenant, c'est que ça peut être théâtralisé au point que le prédicateur n'est pas forcément seul. Il peut construire des scénettes avec d'autres acteurs sur scène, prêter sa parole à d'autres personnages, un petit peu comme dans une sorte de crèche vivante, une réelle mise en scène. Enfin, on est déjà vraiment dans du théâtre élaboré.
C'est ça. Alors, ces choses-là, on les voit apparaître, pour des raisons, je pense, qui tiennent largement à notre connaissance des sources, un peu plus tard, à la fin du Moyen-Âge, à une époque où aussi, il faut le dire, la prédication à certains moments a pris des allures dramatiques liées aux crises sociales et où il fallait en quelque sorte un peu ébranler cette population et la remettre dans le droit chemin. Parce que c'est un peu comme les prédications évangéliques qu'on voit encore aujourd'hui qui sont aussi des grands spectacles, notamment aux États-Unis. Et donc, on sait très bien que par exemple un Vincent Ferrier qui prêche au début du XVe siècle, en pleine période de schisme, de crise dans l'Église, développe ce genre de pratique théâtrale en ayant avec lui des gens qui se flagellent, hein, qui se donnent la discipline pour appuyer en quelque sorte son appel message à la pénitence, son message de pénitence.
Oui, donc, ce sont d'authentiques flagellants. Hein.
Ce sont d'authentiques flagellants, oui. Et donc, nous sommes là à une époque qui est un peu décalée par rapport à celle que j'étudie parce qu'il y a eu entre-temps aussi le grand événement de la peste noire qui a vraiment provoqué une crise démographique très considérable dans le monde latin de l'Europe. Et cette crise démographique a provoqué aussi des mouvements de dévotion particulièrement radicaux. Et on a eu effectivement des processions de flagellants qui ont été admirablement évoquées par Bergman en particulier.
Le septième saut.
Exactement. Il a un peu suggéré de cette manière l'ébranlement de la société. Et Vincent Ferrier vient après. Et donc, il arrive sur une culture qui a déjà vécu cela et il exploite cette sensibilité dans ses propres sermons. Donc ça existe. Quant à la théâtralisation, je dirais, d'un autre genre qui part de la Sainte Écriture, eh bien on voit par exemple un prédicateur franciscain, Vincent Ferrier lui est dominicain, un prédicateur franciscain de la fin du XVe siècle qui prêche tout un carême, comme on le fait de plus en plus d'ailleurs, pendant tous les jours de carême on donne un sermon. Et alors il prend le thème général de l'évangile de l'enfant prodigue, qu'on trouve déjà long quand on le lit dans les églises, mais il n'est quand même pas si long que ça, il tient quand même en un petit quart d'heure, disons. Et lui, il va prêcher tous les jours du carême pendant 40 jours en découpant en scénettes. Et il a l'idée géniale d'introduire des personnages, et surtout à côté de l'enfant prodigue lui-même, d'introduire un personnage avec lequel l'enfant prodigue va sans cesse dialoguer et faire comprendre l'itinéraire qui est le sien, c'est l'ange gardien de l'enfant prodigue. Et du coup, donc, on a véritablement là des scénettes quotidiennes qui sont racontées, un peu comme aujourd'hui les feuilletons télévisés, où on attend la suite tous les jours.
Oui, avec un contrepoint, ce qui est formidable. L'idée de recourir à l'ange gardien, c'est formidable.
Absolument.
On est à la fois dans l'intimité du personnage, dans ses angoisses, on est dans l'arrière-champ, justement.
Oui, exactement. Et on exploite une dévotion qui n'est pas née avec les prédicateurs, qui est antérieure et qui est très forte, la dévotion à l'ange gardien, dont on pense qu'il est le secours quotidien. Et donc, il utilise là un élément de culture qu'il n'a pas inventé, qui est déjà extrêmement présent dans la société de son temps.
Oui, c'est ce que je me disais lorsque vous parliez de Saint-François et de son cercle de cendres. On sent qu'il doit y avoir quand même une culture partagée extrêmement forte pour que tout cela soit compris.
C'est-à-dire bien sûr.
Les extraits que vous donnez, heureusement, il y a un appareil critique, il y a vos textes qui les éclairent. Mais si on se plonge d'emblée sur les sermons, aujourd'hui, on sent que beaucoup de choses nous échappe.
Tout à fait.
Et du coup, c'est frappant de réaliser à quel point la symbolique est présente. Et c'est un autre point sur lequel je voudrais que vous nous éclairiez, c'est le rôle des métaphores.
Oui.
parce qu'elles sont souvent plus plaisantes que les scènes de flagellants.
Bien sûr, et je dirais elles sont l'aliment plus ordinaire de la prédication au moment où elle se met en place comme une pratique sociale généralisée au XIIIe siècle par rapport à ce qui se passera au XVe. Donc ces métaphores sont très présentes. Et
elles sont plaisantes, elles sont plutôt gaies que sombres.
Oui, tout à fait. Ce qui les caractérise, parce que c'est lié à la culture des prédicateurs, c'est que elles sont fondées sur la Bible. La plupart des images qu'on va trouver, des points de référence, que ce soit le pain, hein, le pain qui est la parole de Dieu, que ce soit la vigne, que ce soit les noces de Cana par exemple, etc. Il y a un enracinement biblique, mais ce qui fait la force des prédicateurs, c'est qu'ils parlent de choses que les gens connaissent, qui sont leur propre quotidien. Tout le monde sait ce que c'est que le pain, le vin, les noces, etc. Et donc, ils partent de ce que savent les auditeurs, et c'est un peu le principe même de l'exégèse biblique. Toute chose a un sens et derrière ce sens en a d'autres. Et la multiplicité des sens possibles, c'est cela. Leur métier, c'est faire ressortir cela.
Avec même par moments des jeux de mots.
Des jeux de mots, exactement. Alors, je sais pas si vous pensez à propos des jeux de mots, moi je pense à quelque chose qui m'a toujours beaucoup frappé, c'est la manière dont un des prédicateurs parle du Christ venu sur terre et reparti au ciel comme un pèlerin qui venait de sa maison et qui repart vers sa maison et qui fait un long voyage sur la terre. Et quand il remonte, c'est après la résurrection, donc il a bien sûr le corps marqué par les souffrances de la passion, mais en même temps c'est un corps glorifié, corps ressuscité, glorifié. Et il y a une très belle expression du prédicateur à ce moment-là, qui parle de la chair du Christ marquée par les stigmates de sa passion, en disant qu'il est monté au ciel sa chlamyde coquillée. Et c'est magnifique parce que la chlamyde, c'est le vêtement impérial de la glorification de l'empereur après la victoire militaire, et on peut penser qu'il y a encore des échos dans la civilisation médiévale de cela, peut-être à travers les images, mais coquillée, c'est véritablement quelque chose de médiéval, c'est-à-dire que c'est l'insigne de la coquille Saint-Jacques que l'on place sur le vêtement quand on a fait le pèlerinage. Et le Christ, avant de monter au ciel, a dans les stigmates la preuve, en quelque sorte, qu'il va rapporter à son Père qu'il a bien fait ce pèlerinage terrestre. Et ce magnifique oxymore qui montre en même temps, la nature de toute la, au fond, de toute la doctrine chrétienne sur l'incarnation du Christ et la résurrection et la montée au ciel. Tout cela dans ces deux mots, pour moi, c'est véritablement une veine poétique. Et il se trouve que le prédicateur qui a inventé cette formule de la chlamyde coquillée est quelqu'un que nous connaissons par ailleurs comme un compositeur de conduits, c'est-à-dire de chants qui sont chantés pendant la liturgie et qui ont une saveur poétique évidente.
Alors, il faut que vous nous parliez du rôle de la musique, justement.
Ah oui.
De la musique et de la musique comme métaphore de la prédication et de son rôle dans la prédication.
C'est un vaste sujet. J'ai fait l'un des textes qui se trouve dans ce recueil en parle en effet à travers les instruments.
Hein. À travers les instruments, oui, notamment ce qui m'a frappé, c'est la façon dont certains s'intitulent des vielleurs de Dieu.
Oui.
Voilà. Du nom de la vielle, bien sûr.
C'est ça, oui. Qui est un peu un écho à François, se disant le jongleur de Dieu. Ce que d'ailleurs disent déjà aussi Saint Bernard. Ils ont tous cette culture où la communication passera par le modèle des jongleurs, mais en même temps, plus particulièrement, par celui qui, à travers la musique, va transmettre quelque chose qui est peut-être indicible par les mots. Et c'est aussi l'idée qu'ont les prédicateurs, que bien sûr, ils parlent avec leur culture, leur langage, leurs ressources propres, mais c'est Dieu qui parle à travers eux. Et ils ne maîtrisent pas absolument tout de l'efficacité du discours. Alors ça échappe aux prédicateurs, c'est pas ça. Aux historiens. Cette prédication avec son efficacité au niveau de l'action de Dieu sur les hommes, ça c'est un autre registre. Mais je crois qu'il faut se souvenir que ça existe dans la mentalité de ceux qui parlent et de ceux qui écoutent. Et donc on a effectivement avec la musique la capacité d'évoquer ce quelque chose qui est en plus de ce qui est immédiatement perçu. Perceptible, je crois.
Il y a une forte sensualité. Contrairement à ce qu'on pouvait imaginer à tort, ce sont des textes et il y a un recours à des images de sensualité, gustative
oui.
aussi,
oui.
où on ne promet pas seulement l'enfer aux pécheurs, mais un bien-être et
la béatitude éternelle et, voilà, à table. Et,
voilà. Oui,
au-delà de la fin des temps.
C'est pas ça gentil. Oui. Comparer l'Eucharistie à un festin d'une saveur inouïe qu'on ne pourrait atteindre par aucun autre moyen. Vont à l'encontre des clichés que nous avons sur la période.
Oui, et je crois que ça tient au fait que le modèle social par excellence, c'est le modèle du mode de vie aristocratique. Et les prédicateurs qu'on connaît à travers les sermons pris en note prêchent dans les villes, donc ils ne s'adressent pas spécialement à l'aristocratie, ils s'adressent surtout à un public urbain. Mais pour ce public urbain, le modèle de vie par excellence, c'est celui de l'aristocratie. Et l'on sait que dans ce mode de vie, il y a la largesse, le bien vivre à travers des grands banquets où on invitera beaucoup de monde, et donc c'est un des thèmes effectivement qui va ressortir et qu'ils exploitent très délibérément. J'ai même trouvé chez un prédicateur l'idée tout à fait inventive que quelqu'un qui a du savoir-vivre, lorsqu'il a des invités, que le repas n'est pas prêt, leur offre quelque chose pour attendre, ce que moi j'appelle l'apéritif, le mot n'existe pas, mais c'est bien l'idée qui est là, il y a une sorte de mise en bouche en quelque sorte, et bien Dieu fait la même chose, c'est-à-dire qu'il offre à tous les fidèles sur terre l'Eucharistie, qui est un avant-propos par rapport au banquet de la béatitude éternelle. Et donc, c'est extraordinaire d'imaginer qu'ils ne sont pas du tout gênés par ces images qui pourraient paraître déplacées, mais en même temps, c'est peut-être...
C'est pas très 19e, en tout cas.
Non, c'est pas 19e, c'est pas 20e non plus. Ce sont des images datées. Et je crois qu'il faut en être très conscient aussi. Un prédicateur d'aujourd'hui ne pourrait pas se permettre de reprendre littéralement ces choses-là. Mais par contre, dans un monde dans lequel les repères culturels sont... ceux que nous connaissons grâce aux historiens de la société, c'est un élément de l'efficacité qu'il faut prendre en compte.
Oui, ils ont conscience de s'adresser à un public déterminé et de s'emparer, j'imagine, des enjeux de leur temps. Alors, est-ce que tous ces prédications nous donnent aussi une indication sur le cadre, j'imagine que oui. Quels sont les thèmes principaux? Est-ce que les thèmes d'actualité, ceux de la grande histoire, j'entends, sont présents?
Alors, je dirais une fois de plus, nous sommes très dépendants de nos sources. Quand nous avons des modèles... presque naturellement, tous ces éléments-là sont gommés. Parce que ce qu'on cherche à faire, ce sont des textes écrits qui vont servir et resservir. Donc, le prédicateur pourra broder, mais la structure de base est beaucoup plus générale. Et alors, ce qu'on va trouver de manière... je dirais habituel, c'est une actualité qui est celle du salut. Il faut rappeler aux gens qu'ils sont sur Terre de manière temporaire, que leur destin en même temps ne s'arrête pas avec la mort et qu'ils doivent donc sans arrêt songer à la mort, à l'au-delà, etc. et se souvenir qu'il y a ce message religieux. Donc c'est l'actualité du salut. Après, quand nous sommes en présence de sermons notés à l'audition, ou bien les auditeurs qui sont généralement des clercs, ceux que nous avons en tout cas pour Paris, en Italie on a aussi des laïcs qui ont l'habitude, par le notariat, de prendre des notes. Fin 13e, début 14e. En France, on n'en a pas conservé, en tout cas. Mais les clercs qui prennent des notes peuvent, dans certains cas, retenir juste la structure essentielle d'un sermon, parce que comme ça, ils réutiliseront ça comme dans un modèle. D'autres, au contraire, peuvent être plus attentifs à la particularité de tel ou tel prédicateur, à ce qu'il dit. Et par exemple, j'ai eu l'occasion d'étudier des notes d'auditeurs prises de manière très régulière à Paris au début des années 70, à peu près au moment de la mort de Saint-Louis, vous voyez. Et à ce moment-là, donc, dans la continuité de la prédication, on voit surgir des préoccupations d'actualité, par exemple la famine qui règne à Paris à ce moment-là, et des diatribes contre les gens qui laissent mourir de faim dans la rue les pauvres qui n'ont pas le sou et qui n'ont aucun moyen pour se nourrir, se vêtir et qui doivent s'allonger sur le sol et mourir de froid. Et ces éléments-là sont particuliers. Les éléments proprement politiques sont déjà plus difficiles à trouver, mais ce que l'on trouve, c'est une démarche critique à l'égard en particulier du pouvoir royal. Le fait que le roi a structuré son pouvoir, un peu comme le pape lui aussi structuré son pouvoir, donc a développé des moyens de contrôle, en particulier en France avec les fameux baillis du roi, et on trouve alors des manières détournées de critiquer les baillis du roi en racontant des histoires et en montrant finalement à travers des exemples où on ne va pas dire que ce sont les baillis, mais on va expliquer ce que font les hommes au service d'un pouvoir en disant qu'il y a des abus, il y a des critiques, et tout le monde comprend très bien à demi-mot de quoi il s'agit. Donc c'est un peu détourné, mais ça existe.
Et donc il peut y avoir une lecture d'enjeux tels que rivalité entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel, je ne sais pas, les guèves, les gibelins ou...
Absolument, absolument. Ça, on le trouvera en Italie, bien sûr, mais il peut y avoir ce genre de choses. Je dirais simplement que la masse documentaire que nous avons ne nous transmet pas ces choses-là parce que, au fond, les intentions qui président à la prise de notes, qui est au fond l'élément le plus proche de la prédication effective telle qu'elle se produisait réellement, bien ces motivations sont d'un autre ordre. Il ne s'agit pas, comme pour les chroniqueurs, de rapporter des événements, une température sociale, etc. Il s'agit principalement de regarder comment ça marche. Il y en a quelquefois, j'ai trouvé cela aussi, ils critiquent les gens qui sont incapables de faire un sermon bien en ordre et les gens ne comprennent plus rien. Etc. Donc ils ont des remarques de ce type, mais par contre l'engagement, alors vous trouvez un engagement social comme ce que je disais à propos de la pauvreté face à laquelle il faut avoir ce réflexe humain simplement de secourir le malheureux, les aspects politiques ont existé indéniablement, mais disons qu'ils ne sont pas nécessairement conservés dans les sources que nous possédons, au moins pour le XIIIe siècle.
Et les croisades ? Parce que vous citiez ça tout à l'heure.
Les croisades, oui, elles existent. Les références aux croisades existent. Il y a des prédications qui sont vouées à l'engagement dans la croisade. Ce qui est particulier au XIIIe siècle, c'est qu'on est déjà sur un virage vers la question posée, est-ce que les croisades, ça sert à quelque chose ? Les engagements du XIIe siècle sont beaucoup plus patents, si vous voulez, en quelque sorte, que ça ne devient le cas au fur et à mesure qu'on avance dans le XIIIe. Mais par exemple, Saint Bernard, qui est celui par lequel l'appel à la deuxième croisade à Vézelay c'est fait. Nous savons par les chroniqueurs et par les gens qui ont écrit sa vie que la prédication de Saint Bernard a eu un écho extraordinaire. Nous ne savons pas ce qu'il a dit. Et on peut même, quand on va à Vézelay, imaginer que les conditions dans lesquelles il a prêché, c'est-à-dire en plein air, dans un endroit qui n'est pas spécialement un amphithéâtre où la voix porte, eh bien on peut se demander ce que les gens entendaient, mais c'est là où on revient à l'idée que la prédication comme activité est avant tout une performance dans laquelle l'émotion peut jouer. Et on peut imaginer que la personne, la figure de Bernard, très émacié, vraiment ayant l'air d'un ascète à l'article de la mort pratiquement, très maigre, avec une voix rauque et certainement aussi des gestes très prenants, a produit un mouvement, une sorte d'onde de réaction et donc les engagements en croisade. Au XIIIe siècle, on sait qu'il y a des prédicateurs qui prêchent pour l'engagement pour la croisade, mais on sait aussi par les poèmes en particulier, Ruteboeuf, la dispute entre le croisé et le décroisé, que si quelqu'un comme Saint-Louis s'engage dans la croisade, beaucoup d'autres n'y vont plus. Alors on va trouver, par exemple, j'ai trouvé aussi ce cas, d'une prédication devant le fils du roi, donc le fils de Saint-Louis, Philippe le Hardi, dans les années 70, juste après la mort du roi, qui dit que le roi doit faire ce qu'ont fait les rois mages, et le modèle est celui des rois mages, qui se sont mis en route pour aller rencontrer Jésus là où il était, c'est-à-dire dans la terre où il était né. Et donc, c'est une manière de lui dire qu'il doit se croiser pour aller en Terre Sainte. Mais voyez, c'est le détournement qui se fait par la prédication le jour de l'Épiphanie, et en réalité, c'est vraiment le hasard qui nous a conservé ce texte, mais ça prouve au moins que ça existait, et que donc, il y a d'autres cas certainement que nous avons perdus.
Alors cette époque est l'âge d'or de la prédication. Quels sont les facteurs qui aboutiront ensuite à ce que son importance décline ? Elle ne disparaît pas, bien entendu, mais son importance décline. Comment expliquer ?
Oui, c'est une vraie question et je ne sais pas jusqu'à quel point on peut aller jusqu'à dire qu'elle décline. Parce que, au fond, ce qui se produit, c'est manifestement, comme vous l'évoquiez vous-même tout à l'heure, petit à petit, des choses qui se mettent en place. On sent qu'il y a une concrétion de toute une série de phénomènes et que la prédication devient une pratique sociale dans les villes. Dans les campagnes, elle est moins régulière, mais elle existe aussi. Et je dirais que ce courant-là ne cessera jamais. ne cessera jamais en tant que courant. Et c'est désormais un élément qui existe dans la société. Il y a même des ordres religieux qui sont voués à cela. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des franciscains, des dominicains, dont, des jésuites après, etc., enfin, dont le rôle dans la prédication a été très important. Alors, évidemment, il y a toujours des allers-retours. Il y a des périodes où c'est moins visible que d'autres, où d'autres moyens de communication vont aussi
C'est l'importance relative. Voilà. Les croix, mais pas l'importance en tant que tel.
Jamais l'importance en elle-même. Et je pense que ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'au moment de la réforme, où beaucoup d'éléments de la pratique religieuse sont remis en question, s'il y a une chose qui part mise en question, c'est la prédication. Pensez à Luther.
Ah oui, d'ailleurs,
Luther, Calvin, enfin, tous prêchent.
Lorsqu'on lit votre ouvrage, c'est l'une des réflexions qui vient le plus spontanément, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, la tradition de la prédication dans la forme qui est celle du XIIIe siècle, oui, reste plus présente dans les milieux évangéliques que dans l'Église catholique aujourd'hui.
Oui.
C'est-à-dire que la filiation amène très directement aux évangélistes américains, plus qu'au clergé.
Parce que vous voyez, dans tout ça, il y a quand même un élément fondamental qui est que la raison, la matrice dont on part quand on prêche, c'est l'Écriture. Et donc, même si les modalités de prédication peuvent changer, la démarche fondamentale qui consiste à transmettre en l'actualisant le message de l'Écriture, ça reste en quelque sorte connexe à la vision de la religion en christianisme. C'est quand même fondamental. Donc, les modalités peuvent changer, mais on revient sans arrêt à cette idée que le Christ a envoyé ses apôtres en leur disant « allez prêcher ». Donc ça ne bouge pas, ce sont les modalités qui bougent.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi... une raison très, très prosaïque,
oui,
mais que dans le monde protestant, il y a une émulation due à la compétition, non, peut-être ?
Bien sûr.
Cette volonté d'aller vers les autres et de convertir est peut-être stimulée par le fait qu'on n'est pas dans une institution désormais stabilisée, en quelque sorte.
Oui, on peut le penser, mais je pense aussi que c'est un tri dans les formes de pratiques religieuses qui fait qu'on va donner un relief plus important à ce qui paraît être le retour aux sources véritablement, puisque c'est ce qu'a demandé le Christ dans son envoi en mission. Donc c'est aussi vraiment cette idée qui fait que, ajouté à la notion d'un sacerdoce universel, que tout homme est lui-même en tant que baptisé et prêtre en quelque sorte, fait que bien entendu il a la responsabilité lui aussi de transmettre le message. Ça c'est vrai.
Transmettre, vous venez de prononcer le mot transmettre,
c'est le mot-clé, probablement
dans les églises, mais
c'est
aussi
vrai
dans cette maison.
Oui.
Il y a certainement de matière à réfléchir à cette nécessité de transmission en se plongeant dans votre ouvrage, d'une part parce que vous nous transmettez beaucoup de connaissances sur ce passé pas si lointain finalement, mais aussi des méthodes et une façon de faire pour transmettre, car tout cela est, allez, c'est un mot valise, mais d'une grande modernité, car c'est ça qui est le plus surprenant en découvrant votre ouvrage, c'est qu'on perd encore des clichés que nous avions sur cette époque médiévale. Et c'est pourquoi il faut se plonger dans cet ouvrage, car c'est un, comme souvent avec le Moyen-Âge, c'est un miroir déformant, mais qui nous en dit beaucoup sur nous-mêmes aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, parfaitement. Et je vous remercie d'avoir souligné ce point, parce que nous vivons sur des stéréotypes et vous savez bien que dès que le mot Moyen-Âge est employé, il signifie
des ténèbres,
un certain primitivisme en quelque sorte, comme si la société évoluait toujours dans le même sens. Et je pense pas quand même avoir plaqué simplement mes préoccupations, ce que tous les historiens font. Ils sont d'abord des hommes de leur temps et des femmes de leur temps. Mais malgré tout, je crois véritablement que quand on prend le temps de lire cette documentation, et surtout de la lire de manière sérielle, de prendre beaucoup de textes et d'essayer de les faire décanter les uns et les autres et de voir quel résidu sort. Et à ce moment-là, je crois que petit à petit, c'est un travail de longue haleine qui demande des années. Je crois qu'il ne faut pas non plus négliger ce fait. Dans le monde d'aujourd'hui, on veut obtenir des résultats très rapides. Avec ce genre de documents, c'est très difficile. Mais quand on fait décanter, on voit effectivement les perles qui sortent et on se retrouve dans un univers dont le langage n'est plus le même que le nôtre, mais dont la manière de fonctionner intellectuellement, avec leur sensibilité, leurs émotions, etc., est très proche au fond de la nôtre. Elle est très humaine en quelque sorte.
Très vivante.
Très vivante.
C'est de la parole vivante.
Voilà, voilà.
Et comme le travail de décantation a déjà été fait, je ne peux qu'inciter nos auditeurs à s'emparer des perles en se contentant d'acheter l'ouvrage et de le lire. Et c'est pourquoi je vais en répéter les références. Religion et communication, un autre regard sur la prédication au Moyen-Âge par Nicole Berriou. C'est aux éditions Drose. Merci beaucoup, madame.
Merci à vous. Thank you.